Bienvenue à tous à cette conférence. Donc, nous allons partager sur le recouvrement de l'Église. C'est le thème de cette conférence. Mais avant tout, nous allons lire les versets. Nous allons aller dans Éphésiens 3. Le verset 3 à 5. Amen. On le lit ensemble avec un esprit exercé. Amen. Comment par une révélation il m'a été donné de connaître le mystère, comme je l'ai déjà écrit en peu de mots, par lesquels vous pouvez, en les lisant, percevoir ma compréhension du mystère de Christ, lequel, dans les autres générations, n'avait pas été donné à connaître au Fils des hommes, comme il a été révélé maintenant à ses saints apôtres et prophètes en esprit. Amen. Le verset 8 à 11. À moi qui suis moins que le moindre de tous les saints, cette grâce a été donnée d'annoncer aux nations les richesses insondables de Christ comme évangile et d'illuminer tous les hommes pour qu'ils voient quelle est l'économie du mystère qui, à travers les âges, a été cachée en Dieu qui a créé toutes choses, afin que maintenant, aux principautés et aux autorités dans les lieux célestes, la sagesse multiforme de Dieu soit donnée à connaître par l'Église, selon le dessein éternel qu'il a formé en Christ Jésus notre Seigneur. Amen. Allons dans Romains 8, 28. Et nous savons que toute chose coopère pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Amen. Le verset 16-25, toujours dans Romains. À celui qui peut vous affermir, selon mon évangile, c'est-à-dire la prédication de Jésus-Christ, conformément à la révélation du mystère qui avait été tenu en silence durant les temps des âges. Amen. Donc, voici les versets de base. Donc, le sujet général, comme je l'ai dit dans la conférence, c'est le recouvrement de l'Église. Mais avant de poursuivre, avant de continuer, nous devons savoir qu'est-ce qu'est l'Église. Nous devons avoir une définition intrinsèque, une définition adéquate de l'Église. Parce que nous avons été influencés par la chrétienté. Donc nous avons beaucoup de définitions de l'Église. L'Église, si on nous pose la question, c'est quoi l'Église? On peut dire que l'Église, c'est un rassemblement de personnes qui ont été sauvées. C'est une très bonne définition, mais elle est incomplète. L'Église, c'est le dessein de Dieu. Et comme dans les versets que nous avons lus, Paul avait été choisi pour révéler ce dessein. Et si nous lisons tous les écrits de Paul, nous voyons que cette révélation que Paul a eue a influencé ses écrits. Et quand nous prenons l'Épître aux Éphésiens, nous voyons une très bonne définition de l'Église. Paul définit l'Église selon la révélation de Dieu. L'Église est donc l'expression corporative de Christ, qui est lui-même la corporification du Dieu trinitaire, pour son expression. Donc, voici une définition adéquate de l'Église. Donc, l'Église dont nous parlons aujourd'hui, l'Église dont parle la Bible, est une question d'expression. Donc l'Église, c'est pour exprimer Dieu. Et Si l'Église est pour exprimer Dieu, ça veut dire tous les croyants, tous ceux qui se rassemblent pour former l'Église doivent exprimer Dieu. Et donc, c'est une question d'expression. Pour contacter Dieu, notre organe pour contacter Dieu, c'est notre esprit. Mais l'organe pour exprimer Dieu, c'est notre âme. Pour cela, Dieu a besoin de beaucoup de croyants, de sauver beaucoup de millions de croyants, afin de transformer leur âme pour qu'ils puissent les exprimer de manière corporative. Donc, lorsque notre âme est transformée par le Dieu trinitaire et que notre âme exprime le Dieu trinitaire, là, il y a l'Église. C'est ce que le Seigneur veut, c'est ce qui est sur son cœur. Donc, notre âme doit être transformée. Amen. Donc, l'intention de Dieu depuis les temps passés, depuis l'éternité passée, c'était d'avoir son Église. Et pour cela, il a sauvé beaucoup de croyants. Il continue de sauver les croyants. Il s'infuse en eux, il se mélange à eux, dans leur esprit. Il veut se propager depuis leur esprit, se propager dans leur âme, pour qu'ils puissent l'exprimer. Et lorsque leurs âmes sont transformées, notre âme est transformée, et que nous sommes un dans notre âme, nous pouvons exprimer le Dieu trinitaire. À ce moment-là, l'Église est manifestée et l'Église exprime le Seigneur. Voici ce qu'il veut. Voici ce que nous disons lorsque nous parlons de l'Église. C'est ce qui est sur le cœur de Dieu. Et donc, pour exprimer Dieu, nous avons besoin d'un être sanctifié, d'une âme transformée, d'une intelligence renouvelée. Et donc, tout notre être doit être saturé du Dieu trinitaire pour pouvoir l'exprimer. Donc, nous devons coopérer avec lui. Mais malheureusement, tant de choses ont été perdues durant ces années. Ce qui fait que nous avons, beaucoup de croyants ont perdu cette notion, cette définition qui est sur le cœur de Dieu. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur veut? Le Seigneur veut recouvrer cela. Le Seigneur veut que nous retournions à l'origine, ce qui était sur son cœur. Il veut que nous retournions dès le commencement, ce qu'il avait planifié, ce qui était sur le dessein de son cœur, c'était l'Église. Et c'était cette définition-là. Donc, voilà un peu comment nous allons parler. Donc, comme nous parlons d'Église, voici ce dont nous parlons. Et le Seigneur ne veut pas que nous soyons conduits et dirigés par les autres définitions de l'Église que nous connaissons. Il veut simplement que nous soyons gouvernés et dirigés par ce qui était sur son cœur depuis l'origine. Donc, dans ce message, nous allons, dans un premier temps, nous allons voir que nous devons prendre part au recouvrement du Seigneur. Et pour prendre part au recouvrement du Seigneur, nous avons besoin de voir quel est le dessein de Dieu vis-à-vis de l'Église. Donc, je vais pas lire tout le plan que vous avez reçu. Je vais lire quelques points. Et puis, s'il y a besoin, je vais partager sur quelques points. Amen. Donc, le point A, un dessein est une intention ferme de faire ou d'obtenir quelque chose. Le dessein de Dieu est sa résolution d'obtenir l'Église. N'est-ce pas? Éphésiens 3, 11 nous dit que selon le dessein éternel qu'il a formé en Christ Jésus notre Seigneur. Donc Dieu avait un dessein, il a planifié et il est en train d'accomplir ce dessein. Dans cet âge, le Seigneur, il veut son Église. Et il a planifié depuis l'éternité passée. Dans cet âge, il l'accomplit et il aura son Église dans l'éternité future. La nouvelle Jérusalem qui va l'exprimer pleinement. Dans l'éternité passée, avant la fondation du monde, avant que le ciel, la terre et toutes les choses fussent créées, Dieu fixa un objectif pour le futur. Quelque chose qui vient dans l'éternité. Pour cette raison, il est appelé le dessein d'éternité, le dessein éternel. Nous l'avons lu dans Éphésiens 1 tantôt. Ou on peut le lire. On peut lire Éphésiens 1, le verset 4-5 nous dit « Selon qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde, pour être saint et sans défaut devant lui dans l'amour, nous prédestinant à la filialité par Jésus-Christ pour lui-même selon le bon plaisir de sa volonté. Donc Dieu a planifié cela. C'est pour ça, avant la fondation du monde, il nous a choisis. Il nous a choisis, il nous a prédestinés à être saints comme lui, en vie et en nature, pour que nous puissions l'exprimer. Le thème « dessein » dans Éphésiens 3.11 est équivalent au thème « plan ». Donc, Dieu a un plan qu'il a conçu dans l'éternité. Le dessein éternel de Dieu est le plan de Dieu. Son dessein dans Romains 8.28 fait référence à sa détermination ferme dans le plan de Dieu. Donc, son dessein. Dieu a un dessein. Et ce dessein était devenu le dessein de Paul. Et cela a influencé toute la vie de Paul. Donc, le dessein de Dieu doit devenir notre dessein. Et cela doit influencer notre vie. Et le dessein de Dieu, c'est l'Église. Donc, l'Église doit influencer notre vie. Notre tout doit être donné pour l'Église. N'est-ce pas? Nous devons être un avec l'Église. Parce que l'Église est le dessein de Dieu. L'Église n'est pas temporaire mais éternelle. Dans le dessein éternel de Dieu, l'Église est le centre et le sujet du plan de Dieu. Donc dans toute l'économie de Dieu, l'Église est le centre de Dieu et de son plan, de son économie. Donc, si l'Église est le centre, ça veut dire que c'est quelque chose qui est important, qui est capital pour le Seigneur. Et si cela est capital pour le Seigneur, cela doit être capital pour nous. Le point E, Dieu compte obtenir l'Église composée d'êtres humains, régénérés et transformés, coordonnés et bâtis ensemble en un corps collectif, en un vase corporatif. Et ce vase corporatif, c'est l'Église locale pour nous, maintenant. Donc l'Église locale doit exprimer Dieu de manière corporative. Donc l'Église locale pour nous, c'est ce vase-là qui exprime Dieu. Donc nous devons prendre soin de l'Église locale. Nous devons chérir l'Église locale dans nos localités où nous sommes. Amen. Donc, l'Église est chère, digne d'amour et précieuse pour Dieu, parce que l'Église est son bon plaisir, le désir de son cœur. L'Église est le bon plaisir de Dieu. Elle est tellement précieuse pour Dieu que cela doit devenir précieux pour nous aussi. Nous devons prier pour que le désir du cœur de Dieu devienne le désir de notre cœur. Et Dieu le fera, parce que c'est ce qu'il attend de nous. De telle sorte que notre vie même doit être guidée par l'Église. Je vais vous donner un témoignage que nous avons expérimenté dernièrement. Dernièrement, nous voulions acheter une maison. Et ceux qui habitent Montréal savent que le coût des maisons est très élevé. En tout cas, pour ceux qui ont les bourses faibles comme nous. Mais là où nous habitions, plus on s'éloigne de Montréal, plus ça devient abordable. Mais nous n'étions pas libres d'aller où nous voulons. Nous n'étions pas libres. Et là où j'habite déjà, certains saints trouvent que c'est un peu loin. Donc imaginez-vous si nous allons un peu plus loin. Donc on considérait toutes ces choses-là. Donc on considérait, en prenant en compte les saints, il ne faudrait pas que ce soit trop loin pour les saints. Et l'autre considération, c'était le salon. Il faudrait que ce soit un salon qui soit bien grand pour accueillir les réunions de maison. Et nous avons visité des maisons qui était à notre portée, mais qui était loin. Donc, qui ne remplissait pas la condition de satisfaire les saints. Et nous avons trouvé d'autres maisons qui rentraient dans notre bourse, qui étaient un peu proches, mais où le salon était petit. Et nous avons cherché, arrivé un moment, nous ne trouvons plus de maison. Et nous n'avons notre capacité ne nous permettait pas d'avoir ce que nous voulons. Et nous étions prêts à abandonner, à attendre jusqu'à ce que nous ayons cette condition-là pour que les saints puissent se sentir libres d'arriver chez nous. Et le Seigneur a pourvu. Nous avons trouvé une maison à 350 mètres de là où nous habitions et un salon bien grand pour accueillir les réunions. Parce que nous avons considéré le dessein de Dieu qui est l'Église. Lorsque nous considérons le dessein de Dieu qui est l'Église, le Seigneur, apparemment, nous pensons que le Seigneur prend soin de nous. Non, le Seigneur ne prend pas soin de nous, il prend soin de son Église. C'est son désir, il prend soin de son Église. Mais c'est au travers de nous qu'il prend soin de son Église. Amen. Donc nous devons donner notre tout pour l'Église. Amen. Donc l'intention de Dieu concernant l'Église est triple. Il souhaite s'exprimer au travers de la filialité, faire connaître sa sagesse multiforme à l'ennemi et soumettre toutes choses sous une tête. Et pour cela, il a besoin de notre coopération. Il a besoin que nous coopérions, que nous soyons ouverts à lui, pour qu'il puisse se dispenser en nous, pour que ce désir-là puisse être atteint. Lorsque nous avons vu ce dessein de Dieu, lorsque nous avons vu ce qui est sur le cœur de Dieu, nous avons une autre mission. L'autre mission, c'est d'illuminer tous les hommes pour qu'eux aussi voient ce dessein-là, pour qu'ils voient quelle est l'économie du mystère qui, à travers des âges, a été caché et qui nous a été révélé dans cet âge-là. Moi, je vais m'arrêter là. Je vais passer la parole au frère Anderson. Il va couvrir ce deuxième point.
Amen. Il nous vient alors de parler du fait d'être illuminé concernant le dessein de Dieu, concernant le mystère caché de Dieu. Le frère nous a permis de lire le verset Éphésiens 3, versets 8 et 9. Je lis particulièrement le verset 9. Et d'illuminer tous les hommes pour qu'ils voient quelle est l'économie du mystère qui, à travers les âges, a été caché en Dieu qui a créé toutes choses. Il y a une raison fondamentale qui motive la création de l'univers. Dieu avait une intention dans son cœur, qui a motivé la création de l'homme. Et Éphésiens nous dit que ce mystère était caché. Dieu l'avait caché dans son cœur. Et pendant qu'il façonnait l'homme, pendant qu'il créait la terre, le ciel, il avait un désir, une intention cachée. Et Paul dit que nous devons illuminer tous les hommes concernant ce mystère caché. Alléluia. C'est merveilleux. Tout ce qui nous arrive, tout ce que nous vivons, tout ce que nous allons vivre, répond à cette intention de Dieu, à ce désir caché de Dieu, qui est son mystère. Le Nouveau Testament nous dit que l'Église est un mystère en Dieu, dans le grand A, au grand 2. Au fil des générations avant l'époque du Nouveau Testament, l'Église était un mystère. Dieu, dans Luc 1, verset 79, je lis pour nous. Luc 1, verset 79. Pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas vers le chemin de la paix. Lorsque Dieu donne la lumière, pourquoi nous devons illuminer tous les hommes? Pourquoi nous devons manifester l'intention, le désir de Dieu vis-à-vis de tous les hommes? Imaginez un instant. Lorsque je suis en train de travailler sous la lumière ou sous l'électricité, et puis il y a une coupure, il y a le courant qui s'interrompt, tout devient sombre. Ça peut prendre des heures, ça peut prendre quelques temps, et soudain, la lumière revient. Généralement, ça s'accompagne de clameurs, ça s'accompagne de joie. Ça fait « Wow, la lumière est revenue ». Pourquoi? Parce que le Seigneur sait que lorsque les hommes sont illuminés sur son mystère caché, ça procure la joie, ça procure la vie, ça conduit à se focaliser directement sur cette lumière-là. Or, cette lumière-là, c'est le dessein de Dieu, c'est l'intention de Dieu. Pourquoi? Que veut Dieu? Qu'est-ce que Dieu recherche en nous? Pourquoi Dieu veut nous remplir? Quand Dieu nous créait, qu'est-ce qu'il avait comme intention? Gloire soit rendue à Dieu que nous avons ces réponses aujourd'hui. Gloire soit rendue à Dieu qu'aujourd'hui, nous avons le sens réel de notre vie. On ne vit plus pour rien. Alléluia. On sait maintenant pourquoi on vit. Dieu veut nous remplir. Mais une fois que Dieu te remplit, c'est pourquoi? Voici une question indispensable que chacun de nous devait se demander. Maintenant que je suis rempli en Dieu, c'est pourquoi? Maintenant que je suis sauvé, c'est pourquoi? C'est pour le mystère de Dieu, le mystère caché de Dieu, qui était son intention depuis des années. Et Paul s'émerveillait que Dieu maintenant se décide de révéler cette intention qu'il avait dans son cœur. Et une fois que je vois l'intention de Dieu, une fois que je vois les désirs de Dieu, une fois que j'apprécie et je considère les désirs de Dieu, je comprends maintenant pourquoi Dieu veut faire telle chose dans ma vie. Je ne me pose plus de questions. Je ne m'interroge plus sur quoi que ce soit. Et généralement, qu'est-ce qui se passe? Quand je vois le mystère de Dieu caché, ça focalise toute mon attention. Ça conditionne toute ma vie. Et ça m'entraîne entièrement vers Dieu. On nous cite souvent le cas de Siméon dans Luc. Siméon qui avait été illuminé de Dieu sur l'arrivée de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Siméon a été totalement focalisé par cela. Ça conduit toute sa vieillesse dans l'adoration du Seigneur, à attendre cette révélation et à toucher à cette révélation. Et lorsque le Seigneur a permis que cela arrive, Simon était dans la félicité. Il dit, maintenant Dieu, tu peux prendre mon âme. Alors, tous les hommes doivent être illuminés. Alléluia. Nous devons être illuminés et nous devons rester dans cette lumière, dans ce mystère caché qui est l'intention de Dieu, qui est le désir de Dieu. Imaginez un instant, si mon désir est le désir de Dieu, si ce que Dieu désire devient mon désir, j'aurai tout gagné. Je serai dans la félicité. Je me laisserai conduire entièrement vers Dieu. Et Dieu pourra pleinement s'exprimer en moi avec plusieurs personnes. Et se réjouit. Pourquoi Dieu pouvait venir causer avec Adam? Qu'est-ce qu'il recherchait quand il venait causer avec Adam? Qu'est-ce qu'il avait comme désir quand il recherchait Adam? Qu'est-ce qu'il voulait exprimer? Dieu nous donne de voir cela aujourd'hui. Et Dieu nous donne de voir cela aujourd'hui et d'être focalisé par cela. C'est ce que Paul avait vu. C'est ce que Paul avait vu. Et quand Paul s'est levé, les choses ont changé. Paul pouvait maintenant collaborer, apprécier ce mystère-là. Il pouvait se mélanger dans ce mystère-là. Il pouvait se laisser entraîner dans ce mystère-là. et ils pouvaient invoquer Dieu. Prenons Actes 26, verset 18. Je lis. Pour leur ouvrir les yeux, pour leur tourner des ténèbres à la lumière, et de l'autorité de Satan à Dieu, afin qu'ils reçoivent le pardon des péchés et un héritage parmi ceux qui ont été sanctifiés par la foi en moi. Voici l'une des missions que le Seigneur nous donne. Alléluia. Voici ce que le Seigneur veut faire. Le Seigneur veut briller. Le Seigneur veut qu'on voit ce qui était dans son cœur depuis l'éternité passée. Parce que le Seigneur sait que lorsque nous donnons la possibilité aux hommes, lorsque nous sommes dans cette lumière, lorsque nous avons vu ce qui était dans son cœur, lorsqu'il criait le monde, lorsque nous le voyons, le Seigneur sait que directement nous tournons des ténèbres à la lumière. Alléluia. Directement. C'est spontané. Et on a besoin de cela. On a besoin d'illuminer tous les hommes et d'être illuminé et rester dans cela. Sans cela que notre vie prend un sens. Sans cela que notre vie prend un sens réel. Sans cela qu'on voit pourquoi, quand j'ai cru, je suis encore sur la terre. Quand Dieu m'a sauvé, pourquoi il m'a laissé encore sur la terre? Dieu se dispense en nous, en plusieurs hommes, et Dieu permet qu'on l'exprime. Et Dieu trouve son plaisir, et Dieu trouve son désir. On comprend tout le processus que Christ a manifesté pour nous gagner. Et c'est merveilleux de voir ce mystère caché. Et Dieu s'est décidé de se laisser découvrir maintenant. Parce qu'il court, il veut cette expression-là. Il veut ces hommes-là qui ont vu ce mystère caché. Dans le grand E, le mystère caché dans le cœur de Dieu est l'économie éternelle de Dieu. Quelle est l'intention éternelle de Dieu avec le désir de son cœur de se dispenser dans sa Trinité divine, le Père dans le Fils et par l'Esprit dans ses élus, pour qu'ils puissent être comme lui, comme sa reproduction, et devenir un organisme, le corps de Christ, comme le nouvel homme, pour la plénitude de Dieu, l'expression de Dieu, qui deviendra la nouvelle Jérusalem. Le frère Achille parlait de « nous devons considérer l'Église ». C'est cela que Dieu veut. Dieu nous donne un but clair maintenant. Dieu nous donne un but clair. On ne divague plus. On n'est plus dans l'obscurité. Nous sommes sous la lumière de Dieu. Alors nous devons partager pleinement ce mystère-là. Parce que selon le principe de Dieu, tous ceux qui voient ce mystère se tournent directement de la lumière, des ténèbres à la lumière. Et une fois qu'ils sont dans la lumière, Dieu peut avoir son expression. Dieu peut avoir sa représentation. Dieu peut avoir son église. Dieu peut avoir sa vie en des milliers de personnes. Et la reproduction de Christ devient réelle, devient palpable. Voilà une mission que Dieu nous a donnée. Et nous rendons gloire à Dieu qui nous a touchés, qui nous a permis de voir cela et de comprendre ces choses-là. Et on a vu comment la vie de Paul a été totalement focalisée. Et le Seigneur veut nous voir toujours étant illuminés. Le Seigneur veut nous voir toujours rester dans cette gloire-là. Gloire à son nom. Amen. Je passe la parole. Alain.
Gloire à son nom.
Amen.
Amen. De ce que j'ai joui ce matin, c'est deux questions. Première question, ce que Anderson n'arrêtait pas de demander. Pourquoi le Seigneur nous a sauvés? Pourquoi il veut nous remplir? Et Frère Achille avait demandé, quelle est l'Église? Quelle est la définition intrinsique de l'Église? Je pense que cette fin de semaine, c'est les deux questions qu'on doit demander. Quel est le désir de Dieu? Pourquoi est-ce que nous sommes sauvés? Pourquoi est-ce qu'il nous remplit? Et pourquoi les choses nous arrivent? Et quelle est l'Église? Mais pour connaître ceci, il y a deux versets qui m'est survenu, qui est dans Matthieu 5. Matthieu 5, 3. Peut-être on peut la lire ensemble. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Et Matthieu 5, 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Premièrement, oui, nous avons des concepts, nous avons plusieurs définitions de l'Église. Mais il faut oublier ces concepts. Il faut dire au Seigneur, donne-moi un cœur, donne-moi un esprit qui est pauvre, pour pouvoir recevoir une nouvelle révélation, pour recevoir encore une dispensation, une fraîche dispensation qui est sur ton cœur. Et avoir un cœur pur pour poursuivre ce que Dieu veut que tu poursuives sur cette terre.